Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour parler temps qui court, tous les soirs, une heure de conversation. Et ce soir, c'est avec Simon Abkarian.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent.
Marie Richeux avec Simon Abkarian.
C'est une fête. On célèbre les morts. Tout le monde dansera sa danse comme il pourra. Tout le monde jouera son équilibre et son être juste au bord de la chute. La mort elle-même esquissera quelques pas. Il y a des fantômes et des fantasmes dans le noir du placard de votre mise en scène, Simon Abkarian. Nous sommes dans les bas-fonds d'Argos. C'est dans un bordel et dans les plus basses conditions que vit désormais Elettre. À force de prières, elle fait revenir son frère sous les atours d'une humble servante, car c'est une des ruses préférées des héros d'Euripide, Sophocle ou Échille, se grimer en femme pour échapper au combat. Vous faites du cœur des Troyennes violées, des femmes qui ont des choses à nous dire, qui ont vraiment des choses à nous dire et à se dire à elles-mêmes, tout comme vous faites entendre haut et fort la voix de la mère Clytemnestre, assassinée et assassinée. Aussi cruels soient ses actes et ses mots, aucun de ses enfants ne résiste à une caresse dans les cheveux. La partition cavale et les tableaux sont hauts en couleur. Ils se succèdent jusqu'au 3 novembre au Théâtre du Soleil à Vincennes. Bonsoir à vous et bienvenue.
Ben merci, bonsoir.
Electre des Bas-Fonds est aussi publié aux éditions Actes Sud. Est-ce que j'ai dit que c'était jusqu'au 3 novembre? Oui, et que c'était du mercredi au dimanche?
Oui.
Je le rajoute. Est-ce que vous pouvez nous parler, Simon Abkarian, des photographies qu'on ne peut pas manquer, je crois, de voir lorsque nous arrivons dans la salle et que nous nous installons, pour peu qu'on nous laisse encore 5 petites minutes, nos yeux traînent et vont se poser sur ce mur-là d'images, qu'on peut soutenir plus ou moins longtemps. Est-ce que vous nous en parlez?
Oui, bien sûr. Quand j'étais petit, dans la maison de ma grand-mère paternelle, et aussi dans la maison de ma grand-mère maternelle, il y avait des photos de famille. Et c'est important pour moi, les photos de mariage, des photos de baptême, des photos de fête, des photos qui sont pas anodines, qui marquent un moment précis de la vie et un moment important de la famille. Et j'ai voulu recréer ça en plus grand, parce qu'elles sont grandes, les photos, et comme si c'était l'antre de la personne qui joue Kilissa, entre autres, bon, c'est ma sœur qui joue ce rôle.
Et qui est la nourrice aveugle.
Et j'avais envie, voilà, c'est très paradoxal qu'une aveugle garde des reliques qu'elle ne peut pas voir. Et ces photos ont été réalisées par un photographe qui s'appelle Antoine Agoudian, qui est un grand photographe, qui est un grand ami, et qui me suit, nous nous suivons depuis que j'ai commencé à faire de la mise en scène, c'est-à-dire en 98. Et lui, il a tout archivé. Ces dernières années, il est parti sur des zones de combat, faire des photos. Il a un grand projet, c'est-à-dire qu'il a suivi la trace des Arméniens dans l'Empire Ottoman. Du coup, il s'est retrouvé dans le monde, au Moyen-Orient, dans le monde arabe, parfois dans les Balkans, en Irak, en Syrie, au Liban, en Israël, et partout où les Arméniens... Du coup, il s'est retrouvé confronté à la population locale et à ses conflits actuels. Donc il n'a pas reculé, quoi. Donc il y a une photo que j'ai failli enlever, qu'on a gardée finalement, c'est un gamin qui crie avec un bébé dans les bras. Et moi, je crois au signe, c'est-à-dire qu'il avait choisi cette photo, je l'ai regardée, je dis « Antoine, tu crois qu'on la garde ou pas ?» Et finalement, on l'a gardé parce que je pense qu'il faut toujours quelque chose dans une œuvre qui soit discutable. La perfection, il faut la tenter, mais pas la réussir, je pense, parce que la perfection, ça peut être très vite ennuyeux. Et puis, je pense qu'il faut pas se couvrir, entre guillemets, Et pour justement, parce que se couvrir jusqu'au bout, c'est s'assurer qu'on va être dans les règles et qu'on va pas être attaqué en retour. Au contraire, il faut un endroit où l'autre puisse s'engouffrer et vous attaquer, entre guillemets, encore une fois, ou du moins vous questionner votre travail. Et ça fait partie, vous savez, les maîtres persans qui faisaient les tapis, ils laissaient toujours un défaut dans le tapis pour dire que seul Dieu était parfait. C'est pour ça que parfois on s'ennuie avec lui, parce que la discussion est close, manifestement, avec Dieu. Et je pense que dans une œuvre, dans un travail quel qu'il soit, que ce soit une actrice qui joue, un homme qui écrit ou une femme qui écrit ou qui met en scène, il est important pour moi de pas tout blinder, entre guillemets.
D'autant que ça fait sens, à bien des égards, dans un premier temps, vous élargissez grandement la famille, puisque ces photos de famille deviennent des photos d'une famille très très large, qui est peut-être la famille sur la piste de laquelle a été ce photographe-là, mais peut-être aussi un tout petit peu plus grande encore, qui serait la condition humaine. Et d'autre part, avoir un enfant qui crie dans les bras d'un autre corps, d'enfant qui crie, ça n'est pas sans relation avec la lecture que vous faites d'Électre des bas-fonds. Donc c'est une question peut-être, c'est un inconfort peut-être, mais il y a aussi de grands échos avec ce qu'on s'apprête à vivre pendant 2h30.
Oui, mais le danger de ça, c'est parfois de se dire, tiens, on va parler du monde, de sa souffrance, et la souffrance va être, comment dire, une occasion qui justifierait le travail qu'on fait. C'est-à-dire qu'il faut être très pudique par rapport à ça, il faut faire très attention quand on parle de la souffrance des autres, quant à son travail artistique. Voilà. Il ne faut pas que ça devienne une espèce de marche sur laquelle on s'appuierait pour accéder au plateau de la carrière, on va dire.
Votre travail, vous, c'est Electre à ce moment-là. Ouais. Il se trouve que vous le faites dans un monde qui est notre monde, mais vous, c'est Electre.
Ouais.
Très vite dans cet entretien radiophonique entre la danse et la musique, Simon Abkarian, et on entendait là le bruit des pas des personnes qui dansent, mais je relisais aussi rapidement pendant l'extrait sonore le début du texte où il n'est presque question que de ça, de risquer une danse, de risquer une danse contre des tyrans, de se retrouver dans une danse, de se perdre dans une danse. Qu'est-ce qui se joue pour vous là-dedans avant même que les mots ne soient prononcés dans la danse?
Ben, c'est l'infini. C'est l'infini, c'est l'infini liberté, c'est l'infini jadis, c'est l'infini retour, c'est... la vie, tout simplement. Et les histoires à naître, et le début de tout. Pour moi, une danse, c'est une matrice qui, de laquelle tout peut surgir, et dans le sens propre et figuré du terme d'ailleurs, c'est la réunion de tous les corps, dans tous les espaces possibles, imaginables, de tous les âges, de toutes les corpulences, de toutes les confessions, de toutes les conditions. Pour moi, la danse, c'est un peu ça, c'est-à-dire que, et on peut renverser, une danse peut renverser un tyran, pourvu qu'elle soit dansée d'un seul élan et ensemble.
D'ailleurs, ça danse jusqu'au salut, jusqu'au dernier moment de ce spectacle-là, ça danse. Mais au tout début, il y a l'idée que la danse, ça peut être aussi l'endroit de la perte. C'est très clairement l'endroit du risque de soi-même. On jette tout dans la danse. Et ce à quoi est invité Oreste, ce à quoi est aussi invité Electre, c'est il va falloir y aller, les gars, en fait. Il va falloir danser votre danse, qui est aussi la danse du tragique. Immédiatement, vous vous dites que ça danserait autant dans votre Electre des bas-fonds.
Autant non, mais je savais que ça danserait. Et je savais que ça danserait. J'ai un souvenir de mon père qui on dansait un jour parce que nous on vient d'une région d'Anatolie qui s'appelle Erzurum en arménien c'est Galin et là-bas on danse une danse de 9 temps qui s'appelle le Tamzala et je dansais comme ça et puis j'ai senti quelqu'un qui me tirait l'oreille mais gentiment. C'était mon père, il m'a dit « Assieds-toi, regarde. » Et puis il s'est mis devant moi, il a dansé. Et si vous voulez, c'est comme une mère ou un père oiseau qui dit à son oisillon « Voilà comment on vole, voilà comment le ciel peut t'appartenir, voilà comment l'infini peut t'appartenir. » Et la liberté, c'est pas une question... de pouvoir dire ou pas dire. La liberté, c'est une question d'embrasser le ciel qui est à l'intérieur de votre danse. À l'intérieur de, quand je dis danse, c'est aussi la pensée. C'est aussi la parole. C'est tout ça, la danse. Comment on peut s'en emparer un moment sans que ça devienne cet espace-là, sans qu'il devienne une propriété privée. La danse ne nous appartient pas à partir du moment ni le ciel qu'on embrasse. Quand on prend cet envol-là dans la danse, rien ne nous appartient. D'ailleurs, je le dis dans le spectacle, et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ça qui me fait le plus peur. C'est l'appartenance, la propriété privée, ou toi, ou moi, ou un autre, ou une autre, qui serait de tel endroit et pas de l'autre, et de s'y figer. La danse, c'est le contraire de se figer à un endroit. C'est d'aller vers l'autre. La danse, c'est d'accueillir l'autre aussi. Et moi, les gens qui dansent pas, quelque part, à l'intérieur d'eux ou en dehors d'eux, ça, ils me font un peu peur. Et ceux qui ne dansent pas en général, ou celles qui ne dansent plus, on voit sur leur visage que l'enfance a disparu. Le visage de l'enfant a disparu. Et ça, on le retrouve beaucoup chez ceux qui, chez celles qui sont, chez ceux surtout, qui sont tellement sûrs de ce qu'ils disent et tellement sûrs d'eux, que ça en devient tellement rigide. Carrément, la discussion est close, quoi.
Il n'y a plus rien qui vacille. Il y a plein de moments où les interprètes de ce grand spectacle-là cachent, pour arriver au plateau, une petite flamme de bougie. Mmh. Et arrivant au plateau, comme si au plateau il n'y avait plus de vent, il n'y avait plus rien qui pouvait l'éteindre, ils enlèvent leurs mains et c'est ok, la flamme peut vaciller tranquillement. Parce que tout demande à être risqué. Je disais que votre partition cavale, mais c'est vrai, le texte, on l'entend hallucinamment bien du début jusqu'à la fin. Mais ça y va, quoi. C'est pas, vous prenez pas votre temps pour déposer les mots. Ça aussi, c'est un rythme qui vous est venu immédiatement, Simon Abkarian. Vous vous êtes dit, il va falloir que ça avance du mouvement.
C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup les gens, les chevaux ou les gens qui courent tout en voyant autour d'eux le paysage qui est en train de se dérouler dans tous ses détails. Je crois que, en ce qui nous concerne, cette tragédie-là, comme on a essayé de la raconter, c'est un galop. C'est pas un trot. C'est pas, on s'assoit pas dans un fauteuil et on parle. J'adore les fauteuils et j'adore parler.
Ça tombe bien.
mais sur un plateau, je pense que sur ce plateau, en tout cas, dans ce qu'on raconte, il y a quelque chose qui est de l'ordre du galop, quoi. Qu'il y a pas, on peut pas s'attarder. C'est-à-dire qu'on court sabre au clair sous une pleine lune sur un champ de bataille la nuit et on fend ce qu'il y a devant nous, quoi. C'est un peu une guerre aussi. Donc on s'explique, on se prend dans les bras, on se tue, dans un galop.
C'est aussi parce qu'il reste probablement de l'enfance dans toutes les personnes que vous mettez en scène, y compris dans cette nourrice aveugle qui est le témoin aveugle de cette nuit se déroulant sous ses yeux aveugles. Plusieurs moments, les personnes s'invectivent en demandant avec quels yeux. Plusieurs fois, les personnages posent cette question-là. Avec quels yeux tu veux que je regarde? Qu'est-ce qu'il y a dans cette question du regard qui parle de vous, de la manière dont vous avez abordé ce texte, de la manière dont vous abordez le théâtre, de la manière dont vous parlez de notre monde?
Si vous voulez, aujourd'hui, on voit tellement de choses qui sont devenues des morts, des gens qui ont faim, des gens qui brûlent, des gens qui sont assassinés, des gens qui sont brutalisés en masse. Ce serait fastidieux de nommer les pays et les régimes qui le pratiquent. Et on voudrait habituer nos yeux à supporter ça. Et jusqu'à ce qu'ils se pétrifient à leur tour, jusqu'à ce qu'ils... Et moi, je veux pas. Je veux poser la question, mais comment voulez-vous que je regarde ça? Et jusqu'à quand? Et comment je vais supporter ça à l'intérieur de moi? Comment laisser rentrer les choses par les fenêtres que sont mes yeux jusqu'au tréfonds de mon âme? Comment voulez-vous que je m'y habitue? Alors, certes, on peut parfois fermer les yeux et ne pas vouloir voir, ou alors on peut ouvrir les yeux et essayer de dessiner quelque chose qui soit apaisant et qui soit réconciliateur et qui soit guerroyant aussi, pourquoi pas? Moi, je veux bien guerroyer ceux qui organisent toutes ces guerres et toutes ces exactions et toute cette injustice. Mais je veux que mes yeux restent aussi ceux de cet enfant qui s'étonne devant un insecte à qui on a arraché les pattes. Enfin, cette cruauté-là, je veux pas m'y habituer. Et c'est pour ça que je pose inconsciemment, d'ailleurs pas consciemment, c'est pas toujours conscient ce que je fais. Et j'espère que ça le restera comme ça. C'est que les questions que je pose, c'est comment faire pour supporter ça? Comment faire pour respirer cet air-là? Comment faire pour passer outre?
Et dans le comment faire, ou face au comment faire, vous trouvez une des réponses qui est écrire. Re-raconter cette histoire-là, qui a été racontée, mais la re-raconter avec vos yeux ouverts, ça s'est passé comment, l'écriture d'Électre des Bas-Fonds?
Oh, c'est une... c'est la suite d'un processus j'espère continuer encore. Moi, j'essaie d'écrire pour... Enfin, c'est un peu bateau de dire ça pour les femmes, mais c'est pas bateau. En fait, j'essaie de retirer le masculin de l'espace qui est depuis si longtemps occupé par les garçons et les hommes, de le dégager et de pas le donner, parce qu'il m'appartient pas justement cet espace-là, mais de m'en sortir, c'est-à-dire de libérer l'espace occupé si longtemps par le masculin et de le laisser voir qui va l'occuper. Moi, j'essaye d'écrire là-dessus, et puis c'est le cœur des femmes qui m'a beaucoup intrigué, et le sort de cette chrysotémis qui est souvent... Parce que moi, j'aime bien les...
Vous rappelez qui c'est ?
Chrysotémis, c'est la sœur cadette d'Electre, et qui est souvent reléguée au rôle de soumise, de traîtresse, de... Et moi, je m'intéresse toujours aux gens qu'on met au coin au rebut comme ça et qu'on accuse. Souvent, il faut toujours quelqu'un, il faut toujours la tête de quelqu'un qu'on poserait sur le billot sacrificiel pour apaiser justement les consciences qui sont pas si tranquilles que ça. Dire bon, elle a pas été. C'est comme les femmes qu'on a rasées après la guerre. C'était voilà, c'était bien commode et bien facile, mais les gens ils ont pas fait l'introspection de dire pourquoi on n'est pas rentré plus tôt, etc. Bon, je vais pas refaire l'histoire, mais il est bien commode de s'en prendre à quelqu'un qui en retour ne parlera pas puisqu'elle n'a rien dit au moment du conflit. Et manifestement, Chrysotomis, elle a rien dit. Mais moi, je me suis intéressé à elle, puis je dis pourquoi elle a rien dit. En fait, elle est restée, et je pense que de rester, c'est aussi une marque de courage et de résistance. C'est pas seulement ceux qui se disent résistants, qui ont pris les armes et qui, au moment où, voilà, y a des gens qui résistent autrement, qui résistent dans le silence, qui résistent dans l'entêtement de dire ce territoire est aussi le mien, je le lâcherai pas. Enfin, voilà.
Mais ce qu'elle fait aussi en restant, c'est qu'elle regarde, pour en revenir à la question des yeux et avec quels yeux, et que du coup, lorsqu'elle se met à parler dans votre pièce, Simon Abkarian, elle est clairvoyante. Elle a des choses à dire sur ce qui s'est passé pendant l'absence d'Electre et le reste. Puisqu'elle est restée, elle est aussi le témoin de ce qui s'est passé pendant que les autres sont partis. Donc vous en faites le témoin de quoi ?
De la souffrance de la mère. De la souffrance de la mère, parce que dans une famille, il y a toujours quelqu'un qui se dévoue. Quand le père est malade ou quand la mère est malade, là il est question de la mère, mais et c'est vrai, surtout la mère, parce que dès que la mère se révolte contre l'attitude du mari ou du père ou du frère ou du je sais pas quoi, on lui prête tout de suite une hystérie qui serait proche de la folie, qui serait irraisonnée, qui serait injustifiée. Et là, c'est une jeune fille qui est témoin de la souffrance de sa mère au quotidien, et elle dit à sa sœur, t'étais pas là. À ce moment-là, quand elle n'arrivait pas à dormir les nuits, quand elle criait le nom de notre sœur Iphigénie, tu n'étais pas là. Quand il fallait la nourrir de force, tu n'étais pas là. Et si vous voulez, moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'intéressait en tout cas dans cette histoire, c'était la famille. C'était la famille parce que la famille, quelle que soit l'origine des gens, la famille, c'est la famille, la cellule familiale, c'est la cellule familiale. Après, elle s'est constituée comme ça. Mais bon, quand on fait le tour du monde, c'est toujours le mec qui est aux commandes et c'est toujours les filles qui combattent et qui subissent les cagibis qui leur sont alloués, quoi.
Grosso modo, ouais.
Donc, à un moment donné, bon, et ça aussi, c'est grâce à mes rencontres que j'ai eu la chance d'avoir dans ma vie. Quand j'ai rencontré Ariane Mnouchkine, quand j'ai rencontré Hélène Cixous, quand j'ai rencontré d'autres femmes dans ma vie, qui m'ont donné leur point de vue, qui m'ont appris à voir à travers le prisme de leur combat, donc de leur souffrance, de leur oppression éventuelle, pas éventuelle d'ailleurs, et qui les a transformées en ce qu'elles sont, c'est-à-dire des femmes qui combattent et qui se font entendre à leur endroit, à leur manière.
Donc dans la question ou à la question avec quels yeux regarder, il est possible que vous ayez regardé Electre avec des yeux sacrément politiquement féministes, Simon Abkarian.
Je crois, ouais. Enfin, j'espère. Vous savez, moi j'ai pas peur du combat, j'ai pas peur du combat. Et j'ai peur de rien ni de personne. En ce qui concerne le masculin, tous ces garçons qui bombent le torse en disant t'es un mec ou t'es pas un mec. Je crois qu'il y a quelque chose... C'est-à-dire qu'on doit réparer et vite. C'est-à-dire pendant 3000 ans, on nous dit c'est toi, un garçon, qui est l'être supérieur. Là, il est temps pour nous de redire aux gens, de nous redire à nous, qu'on est supérieur en rien, que l'espace n'est en rien le nôtre, et que on doit pas se priver de notre œil gauche, ni de notre poumon gauche, ni de notre bras droit ou nous gauche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, on me prive de la pensée d'une partie de la population qui est féminine, en l'occurrence, et que j'ai besoin d'entendre. C'est-à-dire que quand on regarde l'histoire des humains, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais je m'en fous, mais ceux qui organisent la guerre, c'est les garçons, ceux qui organisent le capitalisme, c'est les hommes, et d'ailleurs, le patriarcat et le capitalisme vont de mèche.
Et la guerre, si on peut même faire trois doigts en même temps.
Voilà. Et à un moment donné, moi, j'ai envie d'entendre une autre perspective. Et quand on a une femme politique qui prend des décisions, on lui prête, on dit qu'elle est folle, qu'elle comprend rien à la circulation, qu'elle comprend rien à comment gérer. Et si c'était un homme qui faisait ça, on lui dirait, ah ben, là, il a des convictions, le bonhomme, quoi. Et ça, moi, j'ai envie que ça s'arrête. J'ai envie que ça s'arrête parce que je commence. Enfin, j'ai honte pour nous, quoi. Et c'est pas de la flagornerie que je suis en train de faire, mais j'ai honte d'entendre certains hommes qui, voilà, la parité. On devrait même plus en parler. Ça devrait même plus être à l'ordre du jour. La parité, ça devrait même plus être à l'ordre du jour de voir des bonhommes qui assassinent leur femme ou leur copine ou leur sœur ou leur mère ou parce que ceci, parce que cela. Mais mon gars. Pourquoi ton honneur il s'est réfugié entre les cuisses d'une femme? À quelle heure? Pourquoi? Pourquoi est-ce que l'enjeu c'est le corps encore de la femme? Je veux dire, à quelle heure elle t'appartient, la fille? À quelle heure c'est toi le maître de son corps? C'est quoi l'histoire? C'est-à-dire que ton nom va être sali. Il est déjà sale ton nom parce que c'est toi qui lui prêtes des intentions qui sont malsaines. Donc c'est pour ça que j'écris en fait, pour répondre à votre question, j'écris aussi beaucoup pour ça et pour redéployer de la parole. Et donc, un temps soit peu de pensée.
Il se trouve, hasard des calendriers, que je venais juste d'écouter 4 grands entretiens avec Virginie Despentes quand je suis rentrée au Théâtre du Soleil. Donc, je l'avais comme ça, dans un coin de ma tête.
Les hommes de ma génération et les hommes plus vieux ont été éduqués de telle façon que vraiment, ça comptait pas ce que pensaient les femmes. Ils baisaient tout seuls. En gros, ils baisaient avec des corps, mais de gens qui n'étaient pas vraiment là. Donc, il y avait quelque chose sur le consentement féminin qui leur échappait complètement, c'est vrai. Il y avait toute une culture qui leur disait qu'il faut toujours un peu les forcer quand elles disent non, c'est oui. C'était vraiment, il y avait une vraie, il y a vraiment eu Hollywood là-dessus, a vraiment fait un vrai travail de fond. Il y avait toute une culture aussi où le désir masculin, il fallait toujours l'accueillir avec joie, avec, oh, une érection, c'est formidable. On pouvait pas la montrer, mais il fallait toujours la célébrer, parce qu'à chaque fois, c'était comme la prof, je sais pas, de sa vitalité, et on s'en foutait de, à travers quel corps elle allait passer, dans quelles circonstances. Et donc, ouais, je pense qu'il y a plein de mecs qui aujourd'hui sont sincèrement super surpris des problèmes qu'ils ont. Parce que sincèrement, ils ont fait leur vie normalement, ou au vu et su de tous, tout se passait bien. Au contraire, ils étaient plutôt célébrés pour cette vigueur. Ouais, et sincèrement, je pense qu'il y a plein de mecs qui ont pu faire des trucs et qui sincèrement seraient surpris de savoir que 20 ans après, la fille pense encore et qu'elle a envie de vomir. Je pense que ce qui se passe aussi, c'est que maintenant, ils ont appris que peut-être ça avait un intérêt de se préoccuper de cette femme brisée. C'est quelque chose, vraiment, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Il y avait les hommes, les sujets actifs, importants, c'était les hommes, et il y avait nous autour. Et nous, la seule chose qui était importante pour eux, pas nous, c'est qu'on se teste pour pas perdre la réputation, quoi, en fait. Mais sinon, franchement, ils s'en foutaient. Donc oui, ça peut les sûrement, au sens, ils se sont même pas posé la question, ouais. Enfin, ça, je le crois. Après, à chaque fois, ils peuvent pas s'imaginer ça. Mais il y en a plein, hein, franchement, ce qu'ils ont fait, c'est pas un viol, je le crois. Et je pense qu'on peut faire quelque chose. Déjà, si on parle avec les gens, très jeune, je pense qu'il y a plein de garçons qui n'ont pas envie d'être des gros connards. C'est de la même façon qu'on... Ça ne veut pas dire que tu y arrives. Moi, en tant que meuf blanche, j'ai pas envie d'être une connasse. Ça ne veut pas dire que je vais y arriver à chaque fois, parce que de toute façon, c'est ce que je suis, et je trimballe tout ce que j'ai à trimballer. Mais si tu me demandes, je veux bien prendre 5 minutes pour réfléchir à essayer de ne pas être une connasse. Je pense qu'il y a plein de mecs qui sont exactement dans le même genre de position en tant que mec. Et est-ce que ça changerait quelque chose, je pense, d'essayer de discuter avec des garçons de 11-12 ans de ce que va être leur sexualité? Oui, je pense que ça pourrait changer, on ne l'a jamais fait. Mais même ne serait-ce que pour essayer de voir, est-ce qu'il y a moyen de que ça se passe bien, même. Quoi qu'il soit. Mais même le fait, de toute façon, j'imagine deux jeunes garçons aujourd'hui, un garçon qui a 16 ans, aussi crétin soit-il, ne peut pas être exactement dans la même ignorance et crétinerie qu'un garçon qui avait 16 ans dans les années 80. Parce que quand même, il a été alarmé plein de fois sur plein de choses. Alors que dans les années 80, franchement, on leur disait rien sur rien. C'était « vas-y mon gars ».
Baise autant que tu veux, le plus vite possible.
Ouais, et si elle court pas assez vite, attrape-la. Enfin, il y avait vraiment, c'était toute une culture paillarde, on disait. Et paillarde, c'est vraiment la culture du viol, en vérité. Ça passait pas du tout, parce que c'était pas une fête qu'on allait faire toutes ensemble. C'était une fête qui passait sur nous, quoi. Femmes, là, je parle.
Virginie Despentes au micro de Victoire Tuaillon dans un podcast qui s'appelle « Les couilles sur la table ». Donc j'avais ça dans les oreilles, 4 chapitres de ça, de cette pensée-là, de cette parole-là, lorsque je suis entrée au Théâtre du Soleil pour voir Electre des Bas-Fonds, Simon Apkarian, si bien que tout le moment du cœur des prostituées, tout ce moment où vous donnez comme ça tous ces mots aux troyennes qui racontent leur viol, qui racontent leur travail du sexe, qui racontent leurs conditions financières, a résonné d'une drôle de manière. Est-ce que tout ça était déjà chez Euripide, chez Sophocle, chez les anciens?
Non, non. En tout cas, chez Euripide, Sophocle et les anciens, c'est le masculin qui est toujours triomphant et raisonné et raisonnable. Non, non. Non, non. De toute façon, l'histoire de la misogynie, elle commence avec les mythes grecs. Hein. Pandore, c'est elle qui ouvre la boîte. Les furies, les monstres moitié animal, enfin, ça, c'est si on en fait le décompte et si on décortique tout ça, voilà quoi. Et c'est ancré. La femme, elle est soumise de par son statut, son corps, son et quand elle se comme Clytemnestre, quand elle prend les armes pour tuer un bon coup de hache dans la tête d'Agamemnon qui a tué sa fille. C'est très intéressant parce que quand on regarde par exemple la guerre de Troie, elle commence par le sacrifice d'Iphigénie en lui prétextant le mariage avec Achille et elle se clôt avec l'assassinat de Polyxène qu'on va marier au fantôme d'Achille. C'est-à-dire que le cycle commence par le meurtre d'une petite fille vierge et se termine par le meurtre d'une petite fille vierge. Ça en dit long quand même. Et moi, c'est là-dedans que je rentre, quoi, allègrement. Et j'ai pas fini parce que...
Mais c'est intéressant parce que finalement, quand vous dites non, il n'y a rien dans ces textes anciens, mais il y a ça, finalement. C'est une manière de les lire qui bouge votre position, Simon Abkarian.
Oui. Mais
au lieu d'en faire un dogme, vous en faites une possible lecture critique du monde. Finalement, mettre en scène deux sacrifices pour la guerre, des hommes, du patriarcat, on peut dire, que cette guerre-là se fasse au prétexte et au moyen de deux meurtres de petites filles vierges, ça peut être aussi une manière de nous donner du grain à moudre pour penser.
Bien sûr, absolument. 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 Et pour penser, et pour repenser.
Et pour repenser.
La chose. Enfin, ce que dit Virginie Despentes tout à l'heure... Je pense que voilà, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. C'est terminé. Maintenant, c'est à nous de nous. Quand je dis repenser, je parle de rééducation. C'est pas d'éducation qu'il s'agit maintenant. C'est terminé. À un moment donné, il faut dire aux petits garçons, et je dis bien aux petits garçons, que vous pouvez grandir tout en gardant en restant ce que vous êtes, sans être des connards, comme dit Despentes. Voilà, on n'est pas obligé d'être des gros cons parce qu'on a été éduqués comme des merdes, quoi. À un moment donné, il faut s'émanciper de ça et vivre mieux et rendre l'air plus respirable et le sommeil plus doux.
Pour tout le monde.
Pour tout le monde, absolument. Absolument. C'est-à-dire que quand on a la chance de découvrir très jeune que le plaisir de votre partenaire, quand c'est une femme, est aussi important, voire plus important que le vôtre, déjà vous avez fait un grand pas dans votre vie. Ça, si vous l'avez compris tout seul, et ça c'est déjà un grand pas, parce que ça commence par là. C'est-à-dire comment on accueille l'autre, comment on invente l'autre, comment on crée l'espace du plaisir de l'autre. Ça commence déjà dans l'acte amoureux. Et ça continue au théâtre, ça continue à table, ça continue dans une danse. C'est-à-dire que il y a toujours des mecs qui dansent avec des filles et qui les étouffent, quoi. Des danses à deux. C'est pour ça qu'on dit que le tango est une des plus belles danses qui soit, parce qu'on sait pas qui mène. Tiens, mon cul, c'est toujours le mec qui mène et puis point barre, quoi. Après, quand ça devient beau et harmonieux, on s'en rend plus compte. Et là, ça devient intéressant. C'est-à-dire que c'est pas deux corps qui dansent, c'est un seul corps qui se fond dans un même espace pour se séparer de nouveau et pour se retrouver éventuellement après de nouveau. Mais c'est l'homme, comme les Arabes disent au Liban, idel maram nwara, ils disent la femme, le bras de l'homme, le bras de la femme toujours par derrière, c'est-à-dire que c'est elle qui enfile le bras de l'homme. Moi, j'ai été éduqué là-dedans et je m'en suis émancipé. Donc si moi, je m'en suis émancipé du moment où j'avais mes vingtaines d'années, c'est possible pour les autres. En plus, moi, je viens d'un endroit où les gars, ils sont super cons, quoi, de ce point de vue-là. Donc si moi, je m'en émancipe, je vois pas pourquoi en France ou ailleurs on s'en émanciperait pas. Et c'est pas une question de culture qui viendrait de l'autre côté de la Méditerranée. Non, c'est une culture de gros blancs ici présents dans ce pays qui organise ça et qui depuis la révolution industrielle et avant le confirme, le construise, le fortifie. Et dès que vous êtes à l'encontre de ça, en fait, si vous tirez sur le fil du truc, vous retrouvez toujours 3-4 bonhommes qui sont en train de foutre la merde dans le monde, quoi, dans le plus grand nombre.
Et une manière de tirer sur le fil, c'est d'écrire et de jouer des textes de théâtre où il est notamment question du sexe des femmes, de leur corps violenté, violé pendant les guerres, de leur corps mis au travail sans volonté de leur part, et aussi de leur manque d'amour. Electre, vous lui faites parler de sa sexualité, de son refus de la sexualité, de la manière dont elle se refuse obstinément au plaisir. se mettant elle-même dans un cercle de violence et ne pouvant en sortir, emprisonnée dans sa propre haine, mais ça passe par la manière dont elle dit sa sexualité, dont on discute sa sexualité sur scène, Simon Abkarian.
Je crois qu'elle la question et le problème d'Elect, c'est que elle met en scène son calvaire, comme dit sa sœur, et sa punition, en fait, elle se l'inflige et l'inflige elle-même. Il n'y a pas besoin... C'est-à-dire, à partir du moment où on se dit « je souffre, c'est moi qui souffre le plus », s'ouvrent les portes de tous les excès et de toutes les exactions possibles. Je pense qu'elle passe à côté, Electre. Elle passe à côté des femmes, elle passe à côté de son propre corps, elle passe à côté de sa vie, tout simplement. C'est-à-dire qu'elle est tellement obsédée par...
De son amoureux, au passage.
De son amoureux, ouais. Et, bon... Il y a des gens comme ça. Il y a des gens. Moi, j'ai connu des gens dans mon entourage très proches, des femmes qui se targuaient d'avoir connu qu'un seul homme dans toute leur vie. Et t'as envie de dire, mais t'aurais pas dû.
Ou pas. Elles font ce qu'elles veulent.
Non, mais elles font ce qu'elles veulent. Mais c'était juste pour briller dans le regard du masculin, de le défier de par leur sacrifice, de défier le masculin dans leur propre jeu, dans leur propre enclos qui est celui de la tradition. Et voilà pourquoi je trouve ça dommage, parce que la tradition, elle a été l'enclos, il a été posé par le masculin, c'est pas un être qui s'enferme soi-même au départ. Puisque regardez, en Iran, toutes les filles, elles voudraient tomber le voile, quoi. Elles voudraient le faire. Donc il y a un moment donné où les femmes se sentent à l'étroit, elles sont à l'étroit. Et cet étroit-là, c'est le masculin qui l'invente, c'est pas autre chose qui l'invente, c'est pas elle qui l'invente. Si une fille, elle a envie de se mettre en scaphandre, grand bien lui fasse, et de bronzer en scaphandre sur une plage, bon, il n'y a pas de problème. Mais pourvu qu'elle soit pas forcée à le faire, c'est tout. Qu'elle soit pas forcée à le faire d'une manière consciente ou inconsciente, c'est pas simplement qu'on dise « moi je veux ». C'est aussi « on m'a mis dans la tête et je refuse de l'admettre ». Ça, c'est le pire. Et Electre, c'est un peu ça, c'est-à-dire que elle est en train de danser dans le regard de son père mort
et de son frère enfui
et de son frère. Mais après, ça nous ramène toujours à, parce que c'est pour ça que ce sera toujours des thèmes actuels, la tragédie, parce que ça nous ramène toujours au plus profond de nous, ça nous ramène toujours à nos secrets les plus enfouis, à notre sexualité, à notre violence, à notre idée du bonheur, à notre capacité de nous habituer à une misère jusqu'au moment où c'est plus possible. C'est comme quand les gens ils disent pourquoi ils viennent ici, parce qu'à un moment donné ils peuvent plus tenir. C'est intenable, la guerre, la faim conjuguée à la mort imminente des enfants ou des voisins ou de votre mère. À un moment donné, ça tient plus. Il faut les sortir de là. C'est pour ça qu'ils sortent.
Vous dites, Simon Abkarian, que la tragédie, elle a ça de bon, de violent, de bougeant, qu'elle nous ramène au plus intime de nous. Il y a deux moments qui sont absolument, enfin, il y en a d'autres, mais bouleversants dans votre mise en scène. C'est le moment où les deux enfants, tellement en colère contre leur mère, tellement haineux, presque les deux avec le projet imminent de la poignarder, se laissent complètement fondre sous une main dans leurs cheveux. C'est-à-dire que toute la haine, tous les projets les plus belliqueux qu'ils soient, fondent sous une main de la mère. C'est terrible en même temps.
C'est comme ça. Moi, je crois à l'embrassade. Je crois à ça. Je crois à la peau. Je crois qu'on peut arriver à, dans le silence d'une embrassade, à étouffer les démons du crime, quoi, et de la haine.
Elle n'y parvient pas.
Non, mais elle le tente. Et tenter quelque chose, c'est quelque part l'avoir réussi. Elle le tente parce qu'elle arrive à obtenir ce silence-là. Elle arrive à ce moment-là parce qu'on... Moi, je pense toujours à la Pietà, à cette sculpture où il n'est pas normal de voir une mère tenir dans ses bras un enfant mort. Je pense que c'est le contraire qui devrait se passer. C'est devrait être le fils ou la fille qui tient dans ses bras la mère morte. Mais moi, je préfère qu'ils se tiennent en vie. Mais c'est bien de tenter, je trouve que... Et c'est venu, je ne l'avais pas prévu, ça. On ne l'avait pas prévu. C'est ça qui est diabolique au théâtre, c'est qu'à un moment donné, il y a des choses qui se passent et tout d'un coup, y a des pulsions qui surgissent et qui sont
lesquelles dans ces deux scènes? C'est la pulsion quoi? C'est la femme qui ne peut pas s'empêcher de caresser les cheveux de ses enfants haineux, ou c'est les enfants haineux qui ne peuvent pas s'empêcher de voir fondre leur corps? Il y a vraiment un truc comme ça, c'est comme si leur corps se liquéfiait.
Je crois que c'est la pulsion presque animale du retour dans l'endroit du jadis, dans l'utérus du jadis. Je sais pas comment, je veux pas non plus amplifier ça d'une manière trop poétique, mais c'est la matrice, quoi. Et quand on est dedans, la meilleure chose, c'est de se laisser aller.
Quel que soit ce qui advienne plus tard, y compris le meurtre.
On ne sait pas ce qui va advenir plus tard. Nous, j'ai toujours espéré, à chaque fois qu'on joue le soir, on se dit, il ne faut pas que ce soir, Clytemnestre meure, il ne faut pas. Mais en même temps, on raconte ça pour dire ce qu'il ne faut pas, vers où il ne faut pas aller. Il ne faut pas tuer maman.
Ça dépend des fois.
Il ne faut pas la tuer. C'est-à-dire, il faut partir. Mais moi, je ne pense pas qu'il faille... Parce qu'à un moment donné, les gens qui sont vraiment comme ça, qu'on a envie de tuer, il n'y a pas besoin de les tuer, ils se tuent eux-mêmes. Avec le temps, ils se fanent dans le vase de leur propre colère ou haine ou frustration. Et à un moment donné, on ne peut pas... Et ça, c'est le problème. C'est aussi le prodige des générations qui se suivent, comme disait tout à l'heure Despentes. Être un garçon dans les années 80, ce n'est pas être un garçon aujourd'hui. C'est qu'à un moment donné... Les générations qui suivent regardent un petit peu en arrière, se disent bon ben voilà, ça c'était pas. Il y a des gens qui, comme ma grand-mère, elle connaissait 50 mots toute sa vie. Elle a dit 50 mots. Elle a passé son temps à les dire dans un ordre différent. C'est 50 mots. Et on y revient quand on écoute parfois des gens parler, même des politiciens ou des politiciennes. On se rend compte que le vocabulaire, il tourne autour de quelques mots quoi. Ils passent leur temps à les mettre dans un sens. Et ça raconte beaucoup. Et ça. On doit combattre, mais ils vont se faner d'eux-mêmes, ils vont se manger eux-mêmes, ces gens-là.
Le public arrive dans un théâtre dans l'état dans lequel les acteurs et moi-même sommes quand on commence à répéter. C'est-à-dire, au fond, on sait rien. Hein. On sait qu'on va faire ce thème, ou on sait qu'on va monter ce texte, mais bon, tout est à faire, et il y a une salle de répétition vide, une page vierge, et tout le monde prie pour que le théâtre veuille bien redescendre avec nous. Hein, donc, moi, je ne sais pas si je vais trouver le théâtre quand je commence un spectacle. Est-ce que ça va venir, le théâtre? Il suffit pas d'être debout sur un plateau de répétition, même avec un costume, dire des mots, ça peut être ça, mais il n'y a pas le théâtre. Il n'y a pas ce qui fait le théâtre, c'est-à-dire cette espèce de vie, de vérité plus que vraie, et en même temps de poésie. Et c'est très difficile de savoir pourquoi aujourd'hui, on sort d'une répétition, il n'y a rien eu. Alors qu'il y a eu plein de choses, des batailles, des improvisations, des tentatives, des choses, des tas de maudits. Et puis, il n'y a pas eu de théâtre. Et tout le monde confusément le sent. Enfin, tout le monde le sent. C'est vrai que si je le dis pas, et si je dis c'est très bien, et donc que je me trompe, ils peuvent être trompés pendant quelques heures eux-mêmes. Ils se disent, j'ai pas senti, mais bon, elle l'a vu, donc ça devait être là. Mais ils sentent que... Voilà. Et moi, je sens aussi. Je dis, c'est très bien, mais... je rentre comme ça chez moi, je dis, on verra demain quand même, parce que je suis pas sûre. Et demain, ça s'écroule complètement. Il n'y avait pas de théâtre. Voilà. En fait, il n'y avait pas cette espèce de... C'est comme, vous savez, un arc électrique, hein, quand tout d'un coup on rapproche deux pôles électriques et il y a un arc qui se crée. Là, il y a le théâtre. Quelquefois, il y a tous les pôles, ça, puis il n'y a rien.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux avec Simon Abkarian. Thank you.
j'entendais juste avant ça la voix d'Ariane Mouchkine dire que bon, elle a beau de temps en temps rentrer chez elle le soir en se mentant à elle-même et à ses interprètes en disant que le théâtre a été là, mais en fait il n'est pas descendu jusqu'à la troupe et jusqu'au plateau. Partagez-vous cette interrogation tous les soirs au Théâtre du Soleil? Est-ce que vous vous dites peut-être que ce soir le théâtre ne descendra pas?
Bah ouais, toujours. Même si on s'est mis d'accord avec toute l'équipe d'actrices et d'acteurs sur la construction poétique et physique de la pièce, il y a des soirs où il y a la fleur, il y a des soirs à pas la fleur, et puis il y a des soirs où on n'est pas encore dans la catastrophe. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu encore une représentation catastrophique, des répétitions catastrophiques, on les a eues. Mais ça, c'est normal. La catastrophe, l'écroulement, c'est normal. Quand Ariane dit avec aplomb, elle a raison de le faire avec aplomb. Quand elle dit je sais pas, c'est vrai qu'on sait pas. On peut avoir des idées de dire je vais faire ça, il y a voir si ça. Mais en fait, que le théâtre arrive et ils disent bah on va toutes tes petites trouvailles, tu vas te mettre dans ta poche et puis on va laisser surgir la chose et la laisser. Et ça dépend. Parce qu'une personne qui vient rejoindre une troupe dans un travail influe sur le travail. C'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que aussi bien dans le stérile ou dans le toxique que dans la construction et la floraison, quoi. C'est à partir du moment où il y avait le trio des musiciens qui sont arrivés, ça a complètement changé la nature du spectacle. À partir du moment où c'était telle actrice qui disait ce texte-là et pas une autre, ça a complètement... Voilà, donc le premier travail, c'est de savoir s'entourer aussi. C'est de savoir avec qui on va partir à l'assaut de l'histoire, ou naviguer sur des eaux qu'on connaît pas, sous des cieux qui nous sont étrangers.
Donc là, on a une pensée pour toute votre troupe, pour les musiciens, pour les comédiennes et les comédiens, et les gens qui font la lumière et tout ça, parce qu'évidemment, il y a du monde sur le plateau, et si ça prend, c'est avec eux toutes et eux tous, sinon ça prend pas.
C'est clair, et même les gens qui sont hors plateau, c'est-à-dire que tous ceux qui bossent à l'administration, qui travaillent à faire connaître le spectacle, tout ça, ils ont des retours, on a des retours, c'est-à-dire qu'ils sont au plus près de la création, ils viennent voir les répétitions, le spectacle. C'est eux, en fait, qui sont l'organisme. Bon, c'est vrai que les filles et les garçons qui sont présents sur le plateau, sont quand même, voilà, mais la nature du spectacle est la nature de la troupe, du moment. C'est eux, c'est elles, c'est nous. Et, bon, après, c'est pour ça que parfois, quand on vous dit, ben, Simon, viens, on va faire une pièce, on a un mois et demi de répétition, on va jouer là, et tu dis avec qui? Avec un tel, ok. Avec une telle, ok, mais tu les connais pas. On les connaît pas. Et je pense que le théâtre demande...
Quand vous êtes là en tant qu'interprète, vous voulez dire?
Ouais. Et je pense que le théâtre demande un temps où on doit vivre ensemble, savoir qui on est, parce que c'est un long plan séquence tous les soirs. Il n'y a pas de salle de montage, il n'y a pas de découpage, il n'y a pas d'étalonnage. C'est la flèche, elle est tirée, elle part, elle ne revient pas dans le carquois ce soir-là. C'est-à-dire que voilà. Donc il faut savoir avec qui on chemine, quoi. Et je dis ça pas parce que j'ai pas confiance. Je dis ça parce que j'ai pas confiance au si peu de temps qui nous est donné parfois pour faire du théâtre. Pour faire du théâtre, il faut du temps. Et on peut pas, c'est pour ça qu'il est important, moi, d'organiser des fêtes, de faire autour desquelles se grèvent des discussions, des avis, des choses. C'est parce que le travail du théâtre, il se fait pas seulement sur le plateau, il se fait grandement sur le plateau, mais aussi autour d'un verre en disant qu'est-ce que tu penses à ce moment-là. C'est la discussion qu'on continue, même dans le sommeil, il continue. Les gens en rêvent, moi j'en rêve, je me réveille la nuit, je regarde. C'est-à-dire que c'est une habitation obsédante, le théâtre. C'est-à-dire qu'on est... Enfin, moi, je suis un petit peu obsessionnel en ce qui concerne mon travail.
Ce qui permet quand même qu'à la fin, dans ce face-à-face incroyable, où Clytemnestre et Oreste se parlent avant le meurtre, même si vous faites tout avec votre troupe pour que le meurtre Nadienfa, il arrive. Eh bien, Clytemnestre qui dit « La parole est à moi, j'en fais ce que bon me semble, et il me semble qu'il est bon de parler de moi ». Eh bien, ça nous fait entendre cette phrase comme si tous les soirs, la comédienne, la femme, son corps de femme, sa voix, nous disait cela. La parole est à moi, je dis ce que je veux, et moi, là, ce que j'ai envie de dire, c'est de parler de moi. Et donc, j'imagine que c'est tout ce temps dont vous parlez, Simon Abkarian, qui font que ces mots, ils pèsent.
Bah, c'est pour en arriver là que j'ai fait tout ça un petit peu quand même. C'est pour en arriver là. C'est-à-dire le territoire de ma pensée est à moi. Les arbres que j'y fais pousser, les mots que j'y fais fleurir sont à moi. Et la meilleure personne pour parler de moi et de ma souffrance, c'est pas toi, homme, qui va parler de ma condition de femme, c'est moi, femme, qui va parler de moi, moi-même. Parce que mon corps, il n'y a personne d'autre qui le connaît aussi bien que moi. Ma souffrance...
Pourtant, c'est vos mots d'homme dans la voix d'une femme.
Ouais. Mais c'est, ça, vous savez, c'est justement de cette rééducation-là dont je parlais, de ce sentiment que j'avais étant enfant, qu'il y avait quelque chose qui allait pas, et de cette rééducation-là, maintenant... Je la mets en pratique. La rééducation, c'est pas seulement de se dire je vais mieux, c'est aussi de dire
j'agis,
je fais ce qu'on m'a empêché de faire pendant un temps et ce qui doit être fait de mon point de vue. Après, c'est mon point de vue. Qui d'autre qu'une femme que Clytemnestre pour parler de Clytemnestre clairement, c'est elle, c'est personne d'autre. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, je lui fais dire ça, parce que c'est elle qui peut, comme elle dit, je n'ai besoin d'aucun homme qui me tiendra la main pour traverser l'étendue de ma pensée. L'étendue de ma pensée. L'étendue, ça veut dire que c'est quelque chose qui est sans fin, qui ne peut pas être abouti. Je vais redire la même chose à chaque fois, mais j'avais envie que ça se termine, que cette chose-là se termine sur ces paroles-là, sur les paroles de Clytemnestre.
Du reste, c'est son fils qui parle en dernier.
C'est son fils qui parle en dernier, et le dernier mot qu'il dit, c'est mère, mère, mère. C'est-à-dire que quand il rebrousse chemin,
il n'est plus sur le plateau.
Il recule en lui-même. Il va sous les gradins. Il dit, je vais dans cette grotte du jadis où est marqué un mot que l'on ne peut détruire. Mère, mère, mère. Voilà, moi, j'ai besoin d'être transpercé aussi. J'ai besoin d'être transpercé. J'ai besoin d'être blessé quand je vais au théâtre. J'ai besoin d'être saigné quand je vais au théâtre.
Il a cet endroit-là, la blessure. Il a cet endroit-là, l'endroit où vous êtes transpercé par le texte d'Electre.
Ouais. Il est à cet endroit-là, ouais. C'est sciemment que j'ai terminé le spectacle par trois fois, mère. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'ai envie de la mère et de la mère, ou de la femme, de la sœur. Enfin, à un moment donné, moi, j'ai besoin de féminin. J'ai besoin qu'on remette des déesses dans le panthéon. J'ai besoin de dire que c'est une femme qui va être l'intercesseur entre le divin et le temporel. Je crois qu'on est arrivé au pire, c'est-à-dire dans la tragédie qu'on raconte, ou celle de Sophocle, celle d'Euripide, celle d'Eschyle, la pire des choses, c'est de tuer la mère. Tuer la mère, c'est tuer le monde, c'est de la sécher. C'est de la sécher sans retour possible. Et quand on parle de la mère nature, de Mother Nature, c'est aussi ça qu'on est en train d'assécher. C'est cette virilité-là, cette pénétration-là qui fait qu'à un moment donné, on pénètre dans la nature, on la pille, on la prend, on rase l'Amazonie parce qu'il faut planter du soja pour... Après, on nous dit qu'on est con parce qu'on comprend rien à la réelle politique. C'est pas une question de réelle politique, c'est une question de profit. C'est une question de veulerie, c'est une question d'égoïsme. C'est pas une question d'être un bisounours, de pas comprendre pourquoi les Kurdes sont abandonnés et laissés à leur destin. Ça s'appelle pas de la réelle politique, ça s'appelle de la lâcheté. Et c'est de la lâcheté, toujours, qui vient toujours du même endroit.
Electre des Bas-Fonds.
Je suis énervé.
C'est publié chez Actes Sud Papier et c'est joué en ce moment, ouais, du mercredi au dimanche au Théâtre du Soleil. C'est à Vincennes. Merci beaucoup, Simon Abkarian. J'ai une pensée pour toute la troupe. Là, comme ça, je vais pas tout citer, mais franchement, ma pensée va à eux toutes et eux tous.
Merci.
Comment des êtres jeunes, beaux, qui ont leur individualité, peuvent à un moment disparaître et dire plus rien? C'est impensable. Et la tête de la Gorgone traduit cette horreur de l'indicible, de l'impensable, de l'irreprésentable. Un être qui est quelque chose, qui se dissout, qui devient rien. Un être qu'on a vu vivant et qui devient un cadavre glacé et ensuite qui se putréfie. C'est ça que la Gorgone représente. Et c'est ça que, d'une certaine façon, l'histoire pointe vers l'idée que cela même qui est irreprésentable et impensable, la mort d'un être vivant, on peut la civiliser, on peut le rendre vivable sous forme de représentation, sous forme de l'homme, de pouvoir figurer ce qui n'a pas de figure, de pouvoir traduire dans un récit ce que aucune description ne peut arriver à rendre intelligible. Pouvoir de l'art, pouvoir de l'imagination, de l'imaginaire, de l'image, qui est en quelque sorte la seule arme que nous avons en face de ce qui nous dépasse totalement, parce que c'est la marque de notre condition mortelle.
Parce qu'on n'est pas les chiens pour rien, parce qu'on n'est pas des esclaves, parce qu'on n'est pas les chiens pour rien.
À la prise de son, Romain Lenoir ce soir, à la réalisation Lise-Marie Barré. Par les temps qui courent, c'est Jeanne Aléo, c'est Lucie Riandet, Romain Debecq de Lièvre, Marianne Chassor. C'est aussi une page sur franceculture.fr, Par les temps qui courent, et un podcast sur toutes les applis que vous voudrez. Très belle soirée à vous sur France Culture.